Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
À Paris, il y a la Seine et il y a Notre-Dame. Il y a la butte Montmartre, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, et à Paris, il y a l'Olympia. C'est sans conteste la grande scène parisienne de l'époque moderne du music-hall et de la chanson. Le nom de cette salle mythique est et restera éternellement lié à celui qui l'a créée, Bruno Cocatrix. Auteur et compositeur de centaines de chansons, dont Clopin Clopin, impresario, un temps directeur de Bobino et aussi maire de Cabourg, Bruno Cocatrix en aura fait l'un des plus prestigieux music-halls au monde. L'un de ces lieux où tout artiste ambitionne et se doit de se produire un jour. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil à la liste de ceux qui ont fait l'Olympia. Car on fait l'Olympia. Outre les historiques comme Piaf et Beco, il y eut bien sûr Brel, Brassens, Trainé, Ferret, Montand, Barbara, Aznavour, mais aussi les Beatles, les Stones, James Brown, Sinatra, Kalsoum, Stevie Wonder, Nina Simone, Bob Dylan, David Bowie, Judy Garland, Liza Minnelli, pour ne s'en tenir qu'à une petite part du gratin. En 1970, Bruno Cocatrix racontait sur France Culture comment il avait fait renaître au musical l'Olympia, qui était un cinéma depuis 1929. Les grandes conférences, esprit et histoire du musical par Bruno Cocatrix.
Vous ne pouvez imaginer combien je suis heureux et combien je suis ému en même temps d'être devant vous cet après-midi. Ému parce que je ne suis pas un orateur, je ne suis pas un conférencier. Heureux parce que le fait d'être devant vous, c'est donner des lettres de noblesse au métier que je fais et à la corporation que je représente. Je pense que vous ne l'ignorez pas. Je m'occupe de music-hall. Et on a tellement décrié ce genre de spectacle, on l'a tellement mis plus bas que terre, n'était-il pas l'antre de tous les vices, que le fait que vous vous y intéressiez me réconforte, me récompense des efforts que j'ai faits pendant toute ma vie et me donne aussi le droit de ne pas avoir honte des joies que j'ai connues dans ce métier. J'y suis d'autant plus sensible que ce music-hall, pour moi, n'est pas un métier. En fait, c'est ma vie, puisque dès l'âge de 14 ans, je hantais déjà les promenoirs et les coulisses de music-hall et que j'ai continué, de ces 14 ans à aujourd'hui, à hanter ces mêmes coulisses et à assourdir mes voisins en tapant sur un piano, car si j'ai commencé à apprendre à jouer du piano à 14 ans, eh bien, je ne sais toujours pas en jouer maintenant. Donc, je mène les destinées d'un établissement de music-hall, l'Olympia en l'occurrence, et c'est en 1952, couronnement de ma carrière, que je franchissais les portes directoriales de cet établissement. À l'époque, d'ailleurs, c'était un cinéma qui allait qu'à un cas, et mon ambition était de le transformer en théâtre. Mais encore fallait-il pour cela avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Et là, j'avais de très gros ennuis, car quelques erreurs précédentes avaient vidé mes caisses. Ce fut donc avec un projecteur, un micro et un seul rideau que je fis l'ouverture de l'Olympia. Et j'avoue que j'étais pas tranquille, car aucun établissement de ce genre n'existait plus à cette époque. Ils s'étaient tous transformés en théâtre d'opérette, en théâtre de revue, et la pauvreté de mon équipement fit que tous mes efforts tendirent à attirer, avant tout, une clientèle de banlieue, plus particulièrement celle qui est desservie par la gare Saint-Lazare, parce que la gare Saint-Lazare est à 5 minutes de l'Olympia. Et en espérant que ses futurs spectateurs seraient moins exigeants que le redoutable Tout Paris. Ce premier programme fut extrêmement difficile à construire, car aucune des quelques vedettes qui existaient encore ne voulait essuyer les plâtres. Ce furent finalement, après bien des discussions, Lucienne Delisle et le compositeur et chef d'orchestre Aimé Barelli qui acceptèrent d'être les vedettes de ce premier programme. Je dois ajouter que dans celui-ci, il y avait un jeune compositeur qui, pour la première fois, montait sur une scène pour y chanter, en numéro 3 d'ailleurs. Et il ne chantait que 4 chansons. C'était Gilbert Bécaud. Je dois dire que jusqu'au moment de l'ouverture du rideau, j'étais mort d'inquiétude. En effet, tous mes amis m'avaient expliqué que c'était une folie, qu'aucun établissement de ce genre ne pouvait marcher. De plus, que l'Olympia était très mal placé, sur la partie des boulevards où jamais personne ne venait. Il y en eut même un qui m'envoya une lettre accompagnée d'un billet d'avion et dans laquelle il me disait que devant mon entêtement imbécile, le seul geste que son amitié pour moi lui dictait était de m'envoyer ce billet d'avion dont j'aurais besoin pour gagner précipitamment Bruxelles à la fin du spectacle et même peut-être avant pour fuir les conséquences de la catastrophe. Je dois dire que j'ai gardé ce billet et que je l'ai fait encadrer et qu'il trône en bonne place dans mon bureau. Heureusement, les dieux du spectacle furent avec moi et ce tout Paris si redoutable que je n'avais pas invité d'ailleurs et qui pour une fois avait payé sa place, était venu quand même, et il sortit à 1h30 du matin de l'Olympia après avoir fait un triomphe aux artistes du spectacle, et je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Et puis commença l'escalade, car ce métier est ainsi fait que le spectateur demande au directeur toujours davantage. Et ce fut le défilé des plus grandes vedettes françaises volant au secours du succès, et les plus grandes vedettes étrangères, si bien qu'aujourd'hui je peux dire qu'à une ou deux exceptions près, tout ce que le music hall du monde entier compte de gloire a défilé sur la scène de l'Olympia. Il y eut évidemment des hauts et des bas, car ces programmes se renouvelant de 3 semaines en 3 semaines brûlaient une quantité énorme d'artistes en tout genre. Et il y eut des trous, il y eut des tournants difficiles à franchir. Mais en 1957, je transformais la salle pour en faire le nouvel Olympia, qui maintenant, je crois, est devenu un des meubles de Paris. Mais je m'aperçois que je fais mon curriculum vitae et nous voilà bien loin de notre sujet. Nous allons en venir au music hall, mais à propos et avant tout. Qu'est-ce que le music hall et pourquoi music hall? Ce mot music hall à consonance britannique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce qu'on devrait logiquement penser, a été inventé par un Français en 1893, et ce Français était justement l'homme qui construisit l'Olympia dans cette même année 1893. C'était un Catalan du nom de Joseph Holler. Ce monsieur Holler était non seulement un homme de spectacle, mais était un homme de génie, puisque ce fut lui qui inventa le pari mutuel pour les courses de chevaux, à son profit évidemment, dont il ne garda pas d'ailleurs très longtemps le bénéfice, car l'État le nationalisa, et ce fut peut-être d'ailleurs la première nationalisation. Il avait fait construire ce théâtre sur l'emplacement d'un parc d'attractions pour en faire ce que l'on appelait à l'époque un café-concert. Mais épris de modernisme, cet homme ne voulut pas employer cette expression et chercha un mot à consonance anglaise, car nous étions à l'époque de l'entente cordiale, celle où tous les enfants qui naissaient s'appelaient James ou Suzy, et où les premiers mots anglais firent leur apparition dans la langue française. L'ennui, c'est que Joseph Holler ne parlait pas anglais. Alors il chercha, il ne trouva rien, évidemment, et un jour, un de ses amis, qui lui était un linguiste distingué, il lui demanda « Comment appelle-t-on en anglais une grande salle, un hangar ?» L'autre lui répondit « un hall ». Et musique, comment est-ce que ça se dit en anglais, musique? Et son ami lui répondit, music. Et c'est ainsi que naquit le mot musical. Les Anglais et les Américains, eux, avaient donné à ce genre de spectacle le nom français de vaudeville. Si bien qu'il y a encore quelques années, lorsque l'on parlait en Angleterre et en Amérique de musical, les Anglais et les Américains imaginaient plutôt une salle Pleyel ou une salle Gaveau dans lesquelles on aurait donné de grands concerts classiques. Ce fut seulement la réussite dans ces 10 dernières années de l'Olympia qui rendit international ce mot qui avait été inventé de toutes pièces par un Français. En fait, de quoi se compose un spectacle de music-hall? Malgré son nom moderne, le music-hall n'est pas né d'hier. En effet, il est même probablement la première forme du spectacle en France. Car bien avant que le théâtre n'y existe, déjà des troupes de baladins allaient de village en village, de château en château, et se composaient invariablement de troubadours, d'acrobates, de danseurs, de musiciens et de conteurs. Le troubadour et le conteur étaient d'ailleurs en même temps les journalistes de l'époque, car ce sont eux qui colportaient les nouvelles, racontaient l'actualité, avec quelques mois de retard, bien entendu. Or, qu'est-ce que le music hall moderne, sinon la réunion de chanteurs, d'acrobates, de danseurs et de conteurs? Évidemment, de nos jours, le problème s'est un peu compliqué et d'autres formes artistiques ont rejoint les pionniers. Mais dans toutes les disciplines de cette forme de spectacle, l'artiste, contrairement à son collègue du théâtre ou du cinéma, n'a pas de lien de subordination. Il est maître d'œuvre. Son numéro, il l'a composé, il l'a construit comme il en avait envie. Il est son propre patron et n'a de compte à rendre à personne, sauf évidemment au public. Le directeur d'un music hall engage ou n'engage pas un artiste, mais s'il le fait, il le prend tel qu'il est, et ceci est important car si le grand comédien dramatique ou comique peut être indifféremment, selon les pièces qu'il joue, un médecin de campagne, un coureur cycliste ou un politicien, et j'en passe, l'artiste de music hall à travers lui-même n'est toujours que lui. Le public, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Il sait que l'artiste de music-hall est nu devant lui. Sans autre artifice et sans autre arme que sa propre personnalité humaine. Alors évidemment, cette personnalité humaine peut prendre toutes les formes artistiques, de l'acrobate au chanteur, en passant par le danseur ou le tribun, et là je veux parler des chansonniers. Et un spectacle de music-hall est donc avant tout un assemblage d'êtres humains qui ne veulent être qu'eux-mêmes. Il y a quelques années, sur les conseils de M. Vinogradov, ambassadeur d'Union soviétique en France, je partais pour Moscou avec l'intention d'engager des artistes soviétiques pour l'Olympia. Je fus reçu dès le deuxième jour par Mme Fourtseva, ministre de la Culture de l'Union soviétique. Dès le lendemain, j'allais du Bolchoï au cirque et du cirque au théâtre dramatique, en passant par les théâtres d'estrade et par les cercles de poètes, à la recherche d'une troupe hypothétique, d'une troupe de music-hall, et qui représenterait dignement l'Union soviétique. Le résultat fut probant, car cette troupe exista, et maintenant, le Moskovski Music Hall, et par la suite, le Music Hall de Leningrad, sont des spectacles qui jouissent du même respect et de la même admiration que leurs collègues des théâtres d'art dramatique ou d'opéra. L'ennui, c'est qu'en France, nous n'en sommes pas là. Ce mépris du Music Hall demande une explication. En effet, si les penseurs de notre époque ont une certaine admiration pour la danse, peut-être à cause des danseuses, dirait de mauvaise langue, ou pour l'exploit acrobatique, ils ont une haine tenace pour celle qu'ils appellent la galeuse. La galeuse, c'est la chanson. Pourquoi ? Oh, toutes les suppositions sont permises. Est-ce parce que cette chanson a souvent, au cours des siècles, fustigé leurs ancêtres ? Est-ce parce qu'elle a été la locomotive de toutes les révolutions ? Car au fond, que sont la Marseillaise et l'Internationale, sinon des chansons ? Peut-être est-ce parce que nos auteurs actuels blessent leur morale, ou parce que les musiques au rythme d'aujourd'hui font trop de bruit et troublent leur quiétude ouatée ? Bref, cette chanson est la responsable de tous les maux de notre univers. Évidemment, cette haine n'aurait jamais existé si la chanson n'avait pris une telle importance dans la vie de chaque individu. Mais il faut bien le dire, elle est devenue la nourriture, le pain quotidien et la drogue indispensable du citoyen de 1970. Alors cette drogue, si drogue il y a, aurait pu être étudiée, combattue par le ministère de la Santé publique. Eh bien, c'est celui des finances qui s'est trouvé concerné. Je me souviens, il y a déjà un bon nombre d'années, avoir été reçu par un haut fonctionnaire d'un âge certain et qui, après m'avoir écouté avec beaucoup d'amabilité, me dit avec un bon sourire et l'œil un peu pétillant, pour ne pas dire égrillard, « D'accord, le musical, la chanson, c'est très bien, mais admettez-le entre nous. » C'est l'antichambre des maisons closes. Mais maintenant, les équipes de ce ministère sont jeunes, dynamiques. Mais hélas, un autre mal nous guette. Toutes ces équipes, jeunes, sont mariées pour l'éternité à des sortes de monstres, les ordinatrices. Alors, pour combattre, pour abattre la galeuse, on a mis les ordinatrices en marche et on l'a bombardée à bout portant de taxes et encore de taxes. Et je crois que si elle a résisté jusqu'à présent, c'est vraiment la preuve tangible que Dieu existe. Mais peut-être ne faut-il pas mettre uniquement sur le dos des découvertes de la science l'importance que de tout temps la chanson a représentée pour les hommes. En effet, comment expliquerait-on que nous chantions encore le sonnet de Ronsard, « Plaisir d'amour », le « Ça ira », le « Temps des cerises » ou « Allons à l'Orient pêcher la sardine » ? La vérité est que cet art qu'on dit mineur est celui qui touche le plus directement l'individu et qui est l'image la plus exacte de l'actualité. C'est tellement vrai que chaque année apporte son style nouveau et ses sujets nouveaux. Les chansons suivent l'époque et elles en sont le reflet. Dis-moi ce que tu chantes et je te dirai qui tu es. Et je vous propose l'expérience suivante. Chantez-moi toutes les chansons que le peuple a fredonnées de la Gaule à De Gaulle. Et quoi qu'ayant été un très mauvais élève, je vous conterai l'histoire de France. Mais oublions la situation morale de la chanson, essayons de l'analyser. De quoi est faite une chanson ? Ben, nous le savons tous, de paroles et de musique, que fait-on d'abord ? Tantôt les paroles, tantôt la musique, tantôt les deux à la fois. En fait, il n'y a pas de règle. Bien souvent, on m'a posé la question, qu'y a-t-il de plus important, les paroles ou la musique ? Sur le moment, ce sont peut-être les paroles qui sont prédominantes. Mais c'est la musique qui perpétue le succès. C'est en tout cas vrai jusqu'à présent, car évidemment, je ne sais pas exactement l'avenir que nous réserve la musique concrète. La chanson, en tout cas, épouse tellement son époque qu'on trouve toujours meilleure la chanson de ses 20 ans. Combien de fois on m'a dit, avant la guerre, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, les paroles voulaient dire quelque chose, les auteurs avaient de l'esprit, tandis que maintenant, et j'ai fouillé dans les succès, dans les tubes de l'époque, et j'ai trouvé les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume pas cher, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça se mange pas avec les doigts. J'ai aussi trouvé avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. J'ai découvert ce succès immortel de Maurice Chevalier, j'aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans, etc., etc. Tout ça valait bien finalement le dadou ronron de Johnny Hallyday, mais pas plus. Ce qui est vrai, c'est que dans l'histoire de la chanson, il y a deux époques qui se suivent et qui reviennent régulièrement, celle des auteurs et celle des compositeurs. Ainsi, si nous prenons l'époque immédiatement après la guerre, la dernière, en 1945, ce fut l'ère des auteurs. Qui dit auteur, dit évidemment poète et homme de lettres distingué, et dans un Montparnasse ressuscité qui débordait sur Saint-Germain-des-Prés, Sartre, Prévert, Queneau et d'autres écrivirent des textes de chansons. Évidemment, à ce moment, les compositeurs se font tout petits. Ils font de la musique sur mesure et leur inspiration passe au second plan. Je ne sais si les textes ont démérité, mais il y a bien peu de chansons dont on se souvienne, peut-être en dehors des feuilles mortes. Puis les compositeurs ont pris le pouvoir et là ils ont laissé aller leur inspiration et c'est le parolier, c'est l'auteur qui à son tour a dû se plier à leur musique. Et peut-être ne sait-on plus très bien de quoi elle parle, mais on fredonne toujours la chanson de Beko ou d'Aznavour. Nous subissons actuellement une nouvelle attaque de l'intellectualisme, plus ou moins faux ou plus ou moins vrai, comme vous voudrez. Ernest, une Barbara, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'existentialiste Juliette Gréco, un Reggiani, qui fait penser aux chansons tendres du Léo Ferré des années 40. Alors que conclure? Que faut-il souhaiter? Évidemment, il arrive parfois que le poète et le musicien aient la même inspiration et réussissent le chef-d'œuvre. Disons que cela arrive rarement. Et puis, la perfection n'étant pas de ce monde, on n'en demande pas tant. 3 minutes de rêve, ça n'est déjà pas si mal. Il y a un point dont je voudrais parler aussi, c'est ce sacré problème culturel. Parce que, on dit souvent, la chanson, ça n'est pas culturel. Bon, c'est pas si sûr, car même en dehors de sa qualité, je crois qu'elle apporte, ou qu'elle a apporté et qu'elle apportera encore beaucoup de choses et beaucoup d'éléments à la culture, ne serait-ce que musicale, des Français. Car vous ne le savez peut-être pas, mais la France est un des pays le moins musicien du monde. C'est un des rares pays où un artiste peut chanter faux toute une soirée sans que le public s'en aperçoive. Or, savez-vous qui a apporté la plus importante contribution à l'amélioration de l'oreille du français moyen? Eh bien, ce sont les yéyés. Vous vous souvenez certainement de ces jeunes gens des années 60 qui, à l'aide d'une guitare et de hurlements, ont submergé la France. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette mode a fait vendre en 3 ans 2 millions de guitares à des jeunes gens de toutes les catégories et de toutes les classes. Et comme le disait M. Malraux, dans quelques années, ils ne joueront peut-être plus de rock'n'roll, même certainement plus, mais ils auront au moins appris à jouer de la guitare. Puis-je vous dire aussi que c'est cette autre forme de la chanson, le jazz, qui a d'abord popularisé le saxophone, pour en faire maintenant un instrument de musique qu'on trouve dans les orchestres symphoniques. Puis-je vous dire aussi que la musique concrète fait un large usage de cette électronique que la guitare électrique a révélée. Le dernier concert de Pierre Henry, vous pouvez me croire, en est l'illustration la plus parfaite. Où tout cela nous mène-t-il? Quel est l'avenir de la chanson? Quelle sera même la chanson de l'année prochaine si les directeurs de music hall, des compagnies de disques, des postes de radio et de télévision le savaient, que de perspectives heureuses de tranquillité et de fortune. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la chanson n'est que le reflet minute par minute de la société, d'une société qui est en pleine évolution et qui, au nom d'un bonheur futur, frôle sans cesse le chaos. Et pour cette société, de quoi demain sera-t-il fait? Je connais quelques hommes politiques qu'une réponse précise arrangerait bien. Je voudrais enfin vous dire quelques mots des gens du music-hall. Ils se divisent en deux catégories que sépare le célèbre rideau rouge. Mais parlons des spectateurs. Qui vient au music-hall? En vérité, tout le monde. Il n'y a pas de représentation où toute la société ne soit présente. Le music-hall a ses fans et les plus fidèles ne sont pas toujours les plus jeunes. Aragon, Janco, Gaston Bonheur, des prix Nobel, Marcel Achard, des ecclésiastiques classiques ou contestataires, des PDG en vrac, et enfin beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Je ne parle que pour mémoire des artistes, car il est normal qu'ils soient là. Et puis il y a tous les Dupont, tous les Dubois, de l'ouvrier au médecin et à l'avocat. C'est ce qu'on appelle le tout Paris. Mais qui ne serait pas complet sans le contingent d'étrangers parisiens d'honneur. Une première à l'Olympia ne compte jamais moins de 20 ambassadeurs. Et vous ne pouvez vous imaginer d'ailleurs les problèmes que cela pose. Un de ceux-ci me disait avec beaucoup d'humour « L'Olympia me rappelle la Suisse pendant la guerre ». Et ce sont ces 2000 personnalités qui font ou qui défont la carrière d'un artiste en un soir. Une immense cage où on ne sait qu'à la fin de la représentation qui est le lion et qui est le dompteur. J'oubliais de vous parler des techniciens du music-hall, directeurs impresarii de toutes sortes, qui ont en main le destin des artistes, ou plutôt qui croient l'avoir, car en fait, leur rôle se borne à ratifier le verdict du public. Et cela, il faut que vous le sachiez, on peut aider un artiste, mais seul le public le consacre, et seul le public fait sa carrière. Le public, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Juge Suprême. Mais passons de l'autre côté du rideau. L'électricité est partout, dans les câbles comme dans les corps, et les étincelles jaillissent dans tous les sens. Car pour un artiste qui débute, une première, c'est demain la Ferrari ou le retour au sandwich. Quant à la vedette, c'est la remise en jeu de son titre de champion du monde. Et dans ce métier plus particulièrement, il est des défaites dont on ne se remet pas. Évidemment, on est plus ou moins doué pour une première. Gilbert Bécaud, par exemple, a mis 10 ans à s'y habituer. Il n'arrivait jamais à faire un vrai triomphe un soir de première. Édith Piaf, c'était au contraire sa meilleure représentation. Cette confrontation avec le public, cette lutte contre le public, l'excitait, la galvanisait à tel point que plus jamais au cours des représentations suivantes, elle ne chantait si bien. Je me souviens d'un grand gala de première où l'angoisse de Bécaud était si grande qu'il entra en scène à faune, mais à faune nerveusement, car ses cordes vocales se portaient très bien. La première chanson à la clope un clopement, quant à la seconde, il enjoua bien la musique, mais il chanta les paroles d'une autre. Et quand il s'en aperçut, évidemment, sa voix se brisa net, et je n'eus qu'à baisser le rideau précipitamment. Dans la salle, c'était le tohu-bohu, et quand je vins devant le rideau, m'excuser de cet incident technique, qui évidemment stoppait la représentation, je fus couvert d'injures. J'eus beau expliquer que ces invitations restaient valables pour une autre présentation au choix de chacun, ou qu'on pouvait même se faire rembourser, jamais je n'aurais imaginé que cet élégant public de première pouvait avoir un tel répertoire. Dans l'affolement, les contrôleurs préposés au remboursement s'exécutèrent sans discussion. Quel fut mon étonnement quand j'appris que 200 spectateurs s'étaient fait rembourser, alors qu'aucun d'entre eux, invité, n'avait payé sa place. Vous voyez que dans ce métier, dans cette corporation, il y a non seulement des gens qui travaillent, mais il y a aussi beaucoup de fantaisie. Il y a mieux que de la fantaisie, il y a de la joie de vivre. Car c'est peut-être une des façons de l'individu de notre époque, non seulement de mieux s'exprimer, de s'exprimer le plus facilement, mais aussi d'oublier un peu les tracas de chaque jour. Alors, je souhaite que ce vieil adage reste toujours vrai et qu'en France, quels que soient les événements, tout se termine toujours par des chansons pour notre joie à tous et pour la fortune des directeurs de music hall.
Bonsoir, quelle joie, nous sommes tous avec toi.
Les grandes conférences Esprit et Histoire du Music Hall par Bruno Cocatrix a été diffusée pour la première fois le 3 novembre 1970. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Eh bien voilà, ça y est, je crois que le plus dur est fait, j'ai descendu l'escalier. Mon cœur bat comme un fou d'être là devant vous, comme au premier rendez-vous. Que de joie et que de souvenirs me reviennent avec plaisir. Oui, j'ai fait le tour de l'horizon pour retrouver ma maison. Oui, c'est ça la revue, un bouquet de bonheur. Girls et boys, tant et plus, qui dansent, qui chantent sous les projecteurs. Et le talent des grands couturiers, ou habillés des nus, des décors, des chansons de la prévue. Oui, c'est ça, c'est tout ça, c'est ça la revue. De la troupe en frac, ah comme moi le trac, ça fait partie du spectacle. De passage à Paris, les gens de tout pays viennent un peu rêver ici. Et là-bas, à l'abri des lumières, il y a les ombres chères de tous ceux qui ont laissé leur nom dans un coin de cette maison. C'est ça la revue, un bouquet de bonheur. Des danseuses et des nus qui posent toutes roses sous les projecteurs. Allez bien voir, c'est ça la revue. C'est trois coups dans mon cœur. Attention pour le changement à vue. Oui, c'est ça, c'est tout ça, c'est ça la revue.